Bonjour et merci de vous savoir très nombreux à l'écoute de Patara. Nous nous intéressons aujourd'hui à la journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai sous le thème « Façonner un avenir, la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme ». En République centrafricaine, les professionnels des médias dénoncent le difficile accès aux sources d'information, à la liberté d'expression et leurs conditions de travail. Même si le gouvernement se vante de ce qu'aucun journaliste n'est en prison, certains observateurs sociaux estiment que beaucoup reste à faire pour améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes dans ce pays. Le plateau Patara fait place aux acteurs de la vie sociopolitique. Nous avons M. Joseph Bindoumi. Bonjour.
Bonjour.
Président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme et ancien ministre de la Défense. José Richard Pwambi, président du Haut Conseil de la communication, ancien chercheur au département du journalisme à l'Université de Bangui. Monsieur, bonjour.
Bonjour, Armand de Nguindji.
Et Christian Noël Panika, consultant journalisme, ancien rédacteur en chef de Radio Centrafrique. Bonjour.
Bonjour Armando et bonjour à tous les auditeurs de Radio Ndekeluka.
Armando Nguindji, c'est moi. Bonne journée mondiale de la liberté de la presse à tous les confrères de la République centrafricaine et du monde entier. Le débat, c'est après cette courte pause.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Voilà, ouvrons le bal avec vous, monsieur José Richard Pwambi. Que vous inspire, par exemple, le thème de cette année de la Journée mondiale de la liberté de la presse qui s'intitule « Façonner un avenir, la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme ».
Le rôle des médias, c'est de façonner la population, c'est de façonner la communauté. C'est pour cette raison que le journaliste qui a pour mission de rechercher, de publier et diffuser les informations, bénéficie de ce droit qu'on appelle la liberté de presse, qui est donc le droit que la loi confère aux journalistes de pouvoir rechercher, diffuser ou publier les informations en toute liberté. Voilà ce que je peux dire par rapport à la question que vous me posez. Donc, la mission du journaliste et donc des médias, c'est de façonner les habitudes. Et c'est pour cette raison que le journaliste bénéficie de ce qu'on appelle la liberté de presse, qui lui permet de pouvoir rechercher, publier ou diffuser les informations en toute liberté, sans être inquiété, sauf à répondre des abus de cette liberté de presse.
Oui, monsieur Noël Panika.
Oui, la liberté d'expression comme moteur, comme vous le dites, ça tend déjà à faire comprendre l'envergure même de ce qu'on nomme la liberté de presse. Et sans cette liberté, on ne saurait parler des autres libertés. Parce qu'en réalité, c'est le plus précieux des droits. Et lorsque on valorise cette liberté, donc on donne aussi du poids à toutes les autres libertés fondamentales. Et façonner l'avenir tel que c'est dit par la journée internationale cette année, en réalité, on ne peut rien façonner. On ne peut pas façonner l'avenir sans la liberté de la presse. Et la liberté de la presse, la liberté d'expression, à mon avis, c'est ce qui doit être à la base de tout développement dans un pays. Et lorsque dans un pays, cette liberté n'est véritablement pas perçue comme telle, lorsque cette liberté n'a pas sa place, en tout cas, on ne peut parler de l'éclosion des autres libertés, ni parler de développement.
Monsieur Bindoumi.
Je suis très heureux de participer à ce débat Patara en présence de deux grands membres de la communication, cité Pwambi et Panika. Donc, la question que vous posez par rapport au sujet qui a été retenu pour cette journée de la communication, le point le plus important dedans, c'est le mot communication comme droit de l'homme. J'insiste beaucoup sur cet aspect parce que si dans tout état on considère la communication comme un droit de l'homme,
oui, la liberté d'expression,
la liberté d'expression comme un droit de l'homme, on devrait donc être obéissant vers la liberté d'expression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on devra laisser les journalistes faire son travail en toute liberté et puis laisser le peuple qui reçoit les informations les recevoir sans aucune restriction. En tant que droit de l'homme, donc je pense que nous allons clarifier le débat sur la question, mais je suis très très satisfait du sujet qui a été posé parce que la liberté de communication est une liberté qui est un droit fondamental de l'homme.
Mais déjà, quand on parle de la liberté d'expression, cela doit être encadré par des lois.
Merci beaucoup de me préciser sur cette question. Nous avons des lois sur la liberté de communication en République centrafricaine. Nous avons fait plusieurs débats avec le Haut Conseil de la communication. J'ai même participé à des débats pour ça. Mais vous savez que le débat qui nous a toujours entourés, c'est de dire, puisque le texte qui organise la communication en République centrafricaine, la liberté de presse en République centrafricaine, permet que les journalistes fassent librement leur travail, mais le même texte interdit aussi aux journalistes de ne pas poser des actes qui soient de nature à amener du trouble dans le pays.
Le droit et le devoir.
Le droit et le devoir de communiquer. Alors donc ça, c'est une chose très importante et je crois que notre pays a des règles pour ça. C'est vrai que j'ai entendu ces derniers temps qu'il y avait des débats autour de la révision ou de l'aménagement de ce texte, mais il s'agit d'un texte fondamental sur lequel nous avons déjà travaillé avec le Haut Conseil de la communication, mais qui donne des garanties suffisantes aux journalistes pour qu'ils fassent aisément leur travail, mais qui aussi avertit les journalistes à leur devoir de communiquer dans le sens de ramener la paix en République centrafricaine.
Oui, en République centrafricaine, cette journée est commémorée autour du thème « Une presse indépendante, un outil parfait pour garantir la justice, protéger les droits de la personne ». Monsieur Poimbi, pourquoi le choix de cette réflexion ou comment comprendre cela dans le contexte centrafricain ?
Quand on aborde la question de la presse indépendante, c'est pour interpeller tout naturellement les journalistes de rester indépendant. En même temps, c'est pour interpeller également les autorités, pour ne pas qu'il y ait une immixtion des autres pouvoirs vis-à-vis de l'indépendance des journalistes. C'est de ça qu'il s'agit. Presse indépendante, pourquoi ? Lorsque vous avez une presse indépendante, mais ça permet à l'organe de presse ou ça permet aux journalistes de rester véritablement indépendants sans qu'il y ait d'autres pressions extérieures de nature à influencer la qualité du travail que le journaliste peut produire. C'est interdire également aux autorités de ne pas s'ingérer dans le domaine de la communication et de l'information, dans le cadre du traitement de l'information d'un organe de presse, d'une station de radiodiffusion, d'une chaîne de télévision. Donc c'est pour interdire, c'est interpeller les autorités à ne pas s'immixer dans le domaine des médias, de laisser les médias tout à fait indépendants, de laisser les journalistes tout à fait indépendants, mais une manière également d'interpeller les journalistes à rester véritablement indépendants, parce qu'aussi, il y a certains journalistes qui cèdent à la manipulation, voilà, qui, aveuglés par la part du gain, font n'importe quoi, ils ne restent pas indépendants. Et donc, il y a deux aspects. Vous avez des journalistes qui doivent rester indépendants, mais vous avez également les autorités qui ne doivent pas interférer dans le domaine de compétence des journalistes. Laissez les journalistes travailler correctement, conformément à leur ligne éditoriale, conformément aux règles d'éthique et de déontologie en sciences de l'information, également en observant scrupuleusement les lois qui encadrent le fonctionnement de médias dans le pays.
Pour le cas de et donc, en vous écoutant, ça veut dire que vous avez fait un constat avant de retenir ce thème ?
Non, c'est pas nous qui avons retenu le thème, ça c'est beaucoup plus au niveau des autorités. Le Haut Conseil de la communication n'a pas été associé à la préparation du thème qui a été retenu pour cette année. Nous, c'est tombé comme un cheveu dans la soupe. On est mis devant le fait accompli. Et donc, voilà, j'ai pas trop de commentaires à faire par rapport à ça.
Monsieur Panica, sur la question de cet outil parfait pour garantir la justice et protéger les droits de l'homme, c'est-à-dire c'est une presse indépendante. Mais le cas, le contexte centrafricain actuellement, quel constat faites-vous de cela?
Avant tout, je commencerai par dire que si le journaliste ou si les professionnels des médias ne sont pas mis dans les conditions d'indépendance, ils ont à faire face à d'énormes difficultés pour pouvoir exercer librement leur métier. Et dans le monde actuel, nous faisons face à des groupes de pression qui ont une certaine emprise sur le travail des journalistes. Ça peut être des groupes mafieux, ça peut être les décideurs eux-mêmes, ça peut être
des partenaires.
Des partenaires. Et donc, il faut garantir l'indépendance des professionnels des médias et surtout du journaliste face à ces groupes de pression pour que le journaliste exerce librement son métier. Et dans le contexte centrafricain, je crois qu'on aura à nous étaler un peu plus là-dessus.
Si je pouvais continuer sur
oui, le contexte, en tout cas, il est assez difficile. Moi, je me dis qu'on est en face des entités, par exemple, qui sont à plusieurs vitesses. On ne peut pas comparer, par exemple, Radio Ndekeluka à d'autres radios, je ne veux pas citer ici, pour que ça fasse vraiment rougir les uns et les autres. Mais en réalité, il y a certaines entités qui sont mises dans les conditions d'exercer le métier comme il se doit, tandis que d'autres ne le sont pas.
Dans des conditions d'indépendance.
D'indépendance, voilà. Et cette indépendance-là, il y a d'abord l'indépendance d'esprit. Il faut que le journaliste se sente indépendant spirituellement pour faire son travail. Et là, on n'a pas besoin de garantir. Là, c'est juste un ensemble de mises en condition qui concourent à cette indépendance spirituelle. Et maintenant, il y a l'indépendance économique qui doit être garantie. Et vous verrez que cette indépendance-là, ça n'existe pas en toutes les entités. Hein. Il y a certaines entités qui mettent les conditions qu'il faut, qui donnent la possibilité de garantir cette indépendance-là. Donc c'est une indépendance à plusieurs variables. Et quand on se trouve devant une telle situation, il va falloir qu'on pousse la réflexion pour que le travail qui puisse se faire donne la possibilité à tous les professionnels des médias, à tous les journalistes, d'être un peu sur un même pied d'égalité. Et c'est un travail de longue haleine, c'est encore difficile.
Sur le même point d'égalité, oui. Vous voulez évoquer par exemple la question des rémunérations
de ces journalistes. Voilà, et si on parle par exemple de la presse écrite, ma foi, ça c'est le jour et la nuit. C'est tout un tas de problèmes et qu'il faut prendre à bras le corps et essayer de pousser la réflexion, comme je le dis, un peu plus loin pour que les journalistes soient mis sur un même pied d'égalité et qu'ils exercent ce métier-là en toute indépendance. C'est assez difficile, hein, le chemin de l'indépendance, c'est assez difficile, mais on peut y parvenir avec une certaine volonté et beaucoup plus une certaine volonté politique.
Monsieur Bindoumé, vous prenez la parole juste pour vous rappeler que le thème centrafricain aujourd'hui, par rapport à la journée mondiale de la liberté de la presse, est bâti autour d'une presse indépendance qui peut garantir la justice d'abord et protéger les droits de la personne. Que cela vous inspire sur ce point?
Alors, quand nous parlons de l'indépendance de la presse, il faut le mettre en haut. C'est-à-dire que il faudrait que nous acceptons, dans un état de droit, que presse est un pouvoir d'État. C'est un pouvoir qui influe sur les autres pouvoirs, qui influe sur le pouvoir exécutif, qui influe sur le pouvoir législatif et qui apprécie le pouvoir judiciaire. Donc c'est un pouvoir de l'État. Et à partir de ce moment-là, on arrive à ce que l'indépendance se détermine, comme ont dit mes co-débatteurs, en termes de l'indépendance du journaliste, c'est-à-dire sa capacité de prendre l'information dans les règles de son art et de le transmettre de manière pure au public. Garantie de sa liberté de recevoir l'information, garantie de sa liberté d'obtenir les moyens nécessaires, c'est-à-dire les moyens nécessaires, que ce soit des moyens pour se déplacer, que ce soit des moyens pour faire, pour prendre l'information, le traiter et le remettre à l'état pur, au peuple qui en a besoin. Mais ça suppose aussi, cette indépendance suppose que le pouvoir de l'État doit assumer la protection de cette indépendance. En tant que pouvoir, ça doit assumer la protection de cette indépendance. Je veux dire quoi? Je veux dire que ce n'est pas normal, puisque nous sommes venus pour ça, qu'il y ait une information, que des journalistes de l'État soient au courant de cette information et qu'ils soient empêchés de diffuser cette information. Je vous prends par exemple une radio comme Radio Centrafrique. Je vous parle en tant que président de la Ligue des droits de l'homme. Une radio comme Radio Centrafrique, il y a un crime qui se commet. On enlève les gens au kilomètre 5. De nuit, ils sont torturés et rejetés dans la circulation. Les autres organes de presse en parlent, mais la radio Centrafrique, avec des journalistes chevronnés, se trouve dans l'obligation de ne pas en parler. Et à partir de ce moment-là, comment l'État peut évoquer la question de l'indépendance de la presse si les journalistes ne doivent diffuser que des informations qui leur sont autorisées? Est-ce que vous comprenez? Et à partir de ce moment-là, je dis, le thème est bon, mais je mets un point d'interrogation sur la responsabilité de l'État à laisser les journalistes faire leur travail en toute indépendance.
Et donc vous dites la même chose que M. Pambi tout à l'heure, hein, qui rappelle à juste titre que ce thème rime à la situation de l'heure, mais aussi ça nécessite une interpellation des journalistes eux-mêmes de faire concrètement leur travail en respectant l'éthique et déontologie du journalisme, mais aussi du côté du gouvernement ou bien des autorités, de laisser les journalistes travailler dans de bonnes conditions, mais aussi dans l'indépendance comme il se doit. Mais l'indépendance, d'une manière générale, financière, économique, si ça vous va, logistique, tout et tout.
Je suis venu à ce débat parce que j'ai vu la hauteur des personnes qui venaient pour débattre. Et nous sommes venus pour débattre sans langue de bois. C'est vrai, nous souhaitons que l'État centrafricain laisse la liberté d'expression se développer, mais il est vrai, comme a dit mon co-débatteur, qu'aujourd'hui, les journalistes ont la volonté de faire avec des moyens limités, mais aujourd'hui, l'État ne garantit pas systématiquement la liberté de cette pression, de l'exécution de cette mission aux journalistes. J'ai pris l'exemple des journalistes d'une radio nationale, comme la radio Centrafrique. Là-bas, il y a des journalistes que je connais de très grandes compétences, mais qui sont obligés d'attendre la nature des informations qu'ils doivent diffuser. Mais j'apprécie aussi, à juste titre, le rôle que jouent les autres radios. La radio Ndekeluka nous laisse aujourd'hui le temps de parler en toute liberté et de transmettre les messages que le peuple veut écouter. Ça aussi, c'est une forme de liberté de la presse. Maintenant, le collègue Pambi, ici, autour de cette table, a dit qu'on ne peut pas aussi parler de la liberté, de l'indépendance du journaliste, si on ne lui garantit pas les moyens de son indépendance. Je vous donne des exemples bêtes. Je vais être très, très, très chaud ce matin. Lorsque vous prenez des journalistes pour aller à boire, couvrir un événement, d'abord, les journalistes qui sont désignés vont être dans l'arrière de la pick-up. Et quand on arrive à boire, au cours de la cérémonie, ils couvrent la cérémonie. Et quand les autorités qui avaient organisé la cérémonie ont fini de manger, c'est à ce moment-là qu'on dit que, est-ce que vous avez pensé aux journalistes qui sont dans le coin ? Alors, vous comprenez que à un moment donné, on prend le journaliste comme ce qui doit être servi quand on a tout servi.
Mais est-ce que vous voulez parler d'une méconnaissance du métier du journalisme dans ce pays ou bien ?
Mais vous savez que appeler ça méconnaissance. Mais je dis méconnaissance, pour moi c'est faible. C'est non seulement méconnaissance, c'est faible parce que je dis que quand vous savez que la presse est un pouvoir et que le traitement que vous réservez aux hommes des médias ne correspond pas. Je ne sais pas si c'est un mépris, mais je ne sais pas. Je vais chercher le mot tout à l'heure pour trouver un mot plus fort.
Oui, cherchez, vous allez revenir. Je donne la parole à M. Christian Noël Panika. Je vois que vous voulez rebondir tout à l'heure.
Oui, je voudrais rebondir parce que pour avoir exercé pendant un moment au niveau de Radio Centrafrique, et là je parle sous le contrôle aussi de mon jeune confrère, le président du Haut Conseil de la Communication, qui aussi a servi Radio Centrafrique. Les choses sont assez différentes. Lorsque on essaie de voir comment ça se passe au niveau de la radio d'État, on a l'impression que, c'est vrai, il y a la part des autorités, il y a la part du gouvernement, mais il y a aussi la part du journaliste. Quand le journaliste lui-même, il se considère comme un minus aben. Donc lui, c'est comme si c'est un caillou qu'on traîne, mais on fera tout de lui. Et ça, c'est évident. On a vécu des cas où, moi par exemple, je me suis dit que les choses ne peuvent pas se passer telles que le gouvernement le souhaite, mais ça a marché, ça a porté.
C'est une question de conscience. C'est une question de professionnel.
Et je parlais de cette indépendance spirituelle. Il faudrait que le journaliste ne se dise pas que lui, il est le rebut, il est le moins que rien. Il faut qu'il s'affirme. Si, par exemple, on est à une réception, par exemple, et que le journaliste, il préfère se mettre dans un petit coin, attendant qu'on donne l'autorisation pour qu'il aille se servir, mais on le traitera comme il se doit. Mais il est venu comme toute autre personne, toute autre personnalité. Et d'ailleurs, le journaliste, il est tout sauf un voyou. Le journaliste, il a une personnalité. D'ailleurs, quand on vient à une cérémonie, par exemple, on va se mettre à faire tout ce qu'on fera, mais c'est à lui que reviendra la latitude de pouvoir parler de tout ce qui a été fait. Donc, il n'a pas à se minimiser. Il y a d'abord ça, il faudrait que le journaliste ait cette indépendance d'esprit. Et maintenant, quant à garantir l'indépendance économique, bon, on a vu à certains moments dans ce pays où... À Radio Centrafrique, par exemple, il y avait, au niveau de chaque entité, un moyen de déplacement. Et on n'avait pas besoin de ceux qui organisent les événements de pouvoir mettre un véhicule à leur disposition. Et ça se faisait. Donc, il y a aussi cette part des autorités. Il va falloir que les autorités songent à faire évoluer aussi la presse dans le temps. Les choses évoluent. On ne peut pas, par exemple, pour une station de radio, avoir un seul véhicule qui est celui du directeur général qu'on peut utiliser à tout moment. Et d'ailleurs, Dieu seul sait si le directeur général, il vient en véhicule ou bien en moto. À un moment donné, on a vu que c'était des motos qui étaient mises à la disposition des directeurs généraux. Donc, il y a tout cet aspect-là qu'il faut voir. Non seulement le journaliste, il doit s'affirmer, il doit faire montre de cette indépendance d'esprit et voir maintenant avec les autorités ce qu'il y a quant à l'indépendance économique. Et là, les autorités doivent garantir cette indépendance économique aux journalistes et surtout les médias d'État, si on veut que le travail se fasse correctement. Et lorsque le travail n'est pas fait dans ce contexte, lorsque on ne garantit pas cette indépendance, c'est une manière de mettre la presse sous la férule, c'est de ne pas faire en sorte que cette presse-là soit indépendante et cette presse-là ne pourra jamais se mettre au pas, ne pourra jamais faire le travail comme il se doit.
Monsieur Pombe, indépendance individuelle de chaque journaliste, vous l'avez déjà évoqué.
Vous savez, la question de l'indépendance qui a été soulevée tout à l'heure par le président Benoumi, y compris Christian Panica, il appartient aux journalistes de conquérir leur indépendance aussi.
Ça s'arrache.
Vous n'attendez pas qu'on vous donne dans un plateau doré l'indépendance, il faut conquérir l'indépendance de se faire respecter. Le président Benoumi a évoqué tout à l'heure le cas d'un journaliste qui va par exemple à bord pour un reportage. Et vous voyez déjà les conditions du déplacement. Ce n'est pas normal qu'un journaliste qui veut aller à bord pour couvrir un reportage mais soit transporté dans le véhicule des organisateurs. Ça crée déjà un problème d'indépendance. Il y a déjà un problème d'indépendance ici. Quand vous arrivez par exemple à Boa et que vous voulez envoyer un duplex, vous allez faire attention. Vous n'êtes pas indépendant spirituellement, comme l'a évoqué Christian El Panica. Parce que vous dites, mais le duplex que je vais envoyer, si je formule des critiques acerbes vis-à-vis des organisateurs,
ils vont me laisser à boire.
Ça, l'indépendance est mise à rude épreuve. Vous avez ces gens de journalistes qui ne se font pas respecter.
Individuellement.
Personnellement. Ils ne tiennent pas compte de leur statut de journaliste. Il faudrait que le journaliste s'affirme, que le journaliste s'impose. Christian El Panica évoquait tout à l'heure la question des journalistes de la Radio Nationale. Mais les journalistes de la Radio Nationale, ils sont indépendants, en réalité. Mais c'est dans la pratique que le problème d'indépendance se pose. Je me souviens encore comme si c'était hier, M. Panica a été rédacteur en chef, mais les mêmes informations qu'on diffusait, peut-être qu'on pouvait diffuser à la radio Ndekelou qui a été diffusée au niveau de la Radio Nationale, parce qu'il prenait l'initiative. Mais aujourd'hui, vous avez des gens qui sont là, qui peuvent faire la rétention de l'information, délibérément.
Ah bon?
Ce ne sont pas. Je vais vous dire que les gens qui font la rétention de l'information au niveau des médias de service public, c'est pas que ce sont des injonctions qui viennent d'en haut. Hein.
Parfois.
Parfois, il y a de l'autocensure même.
Au sein de
la rédaction. Je fais mon travail, j'ai pas besoin de recevoir des pressions extérieures. Je me rappelle à l'époque, quand j'étais encore directeur de cabinet au ministère de la Communication, il m'arrivait de quitter le cabinet, de descendre à la direction de l'information. Paul Marengo Pana n'est pas mort, il était rédacteur en chef, de dire, faisons le même travail, donnons toutes les informations. C'est quand même triste que Ndekelou a donné une information, que Radio Guira donne une information, alors que nous, au niveau de la Radio Nationale, on fait la rétention d'informations. Ça paraît ridicule. C'est une question de personnalité, c'est une question d'engagement personnel. Quand vous prenez votre responsabilité de faire votre travail comme il se doit, vous vous engagez, peu importe les conséquences. Voilà, c'est ça aussi au niveau des médias de service. Pas que les injonctions viennent d'en haut, mais parfois il y a l'autocensure au niveau même de la direction.
Mais est-ce qu'on peut déjà évoquer cette question de l'autocensure qui peut être liée à la ligne éditoriale de certains médias?
La ligne éditoriale des médias de service public n'empêche pas les journalistes des médias de service public de donner toutes les informations en toute indépendance. La ligne éditoriale des médias de service public, c'est d'accompagner la politique du gouvernement. Mais ce n'est pas de faire la rétention de l'information. La rétention de l'information...
Mais c'est en accompagnant la politique du gouvernement, et si certains ministres, par exemple, ou certaines autorités disent qu'on ne passe pas telle information parce que, vous voyez, ça ne peut pas causer un problème.
Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter. Et là, c'est au niveau des responsables de la rédaction. Quand ils diffusent l'information, je me souviens, excusez-moi, M. Panica, il était rédacteur en chef, à un moment donné, il était pourchassé dans la ville de Bangui parce qu'il avait diffusé une information. Il n'est pas mort, il est là. C'est une question de courage.
Et une question d'indépendance, puisque vous l'avez évoqué.
Mais une question d'indépendance, c'est une question
financière.
De courage.
Si aujourd'hui, c'est journaliste qui travaille dans des services financière. Publics.
L'indépendance financière est évoquée tout à l'heure par M. Panica et le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. C'est pour assurer aux journalistes un salaire conséquent par rapport au travail qu'ils font. Ça, je suis d'accord. Mais après, la question d'indépendance, de dire que telle information je donne, telle information, je fais la rétention. Non, tu ne fais pas la rétention d'information comme ça pour plaire. C'est quand tu acceptes de faire la rétention d'information délibérément pour assouvir les intérêts d'une certaine catégorie de nos compatriotes, c'est là où il y a des petits soucis. Ici, c'est de ta responsabilité.
Monsieur Bindoumé, vous voulez rebondir? Comme non. Ça, on va prendre un autre son tout à l'heure.
En fait, nous trois tombons sur la même orientation. Effectivement, il y a une question d'indépendance du journaliste quand il fait son travail. Et puis, il y a la liberté de l'État de laisser le journaliste faire son travail. Alors moi, je vais vous donner, pour que nos auditeurs soient au courant, que À Radio Centrafrique, à l'époque, il y avait une émission qu'on appelait Grand Débat. Je crois qu'il passait tous les samedis. Moi, j'ai participé à ce Grand Débat souvent.
Septième jour.
Avec des journalistes pointilleux, très forts, comme Montero, qui était appelé pour représenter la MINUSCA. Et donc, c'est un journaliste très fort que nos journalistes devaient copier parce qu'il a tout le calme et toute la maîtrise contre toutes les agressions au cours d'un débat. Et cette émission-là rejoignait tout le monde, avec les membres de la société civile, les partis politiques de l'opposition, de la majorité. On a été à ce débat-là avec les Iguélés, avec tout le monde. Mais progressivement, le Grand Débat a tourné et ça s'est retrouvé à une autre émission, remplacée par une autre émission. Cette émission où les journalistes viennent échanger.
Le Club de Presse.
Club de la Presse. Et où on est revenu à faire des louanges sans journalisme à l'intérieur. Et ça, c'est parce que les journalistes n'ont pas maîtrisé leur activité. Maintenant, en ce qui concerne les moyens financiers des journalistes, ça, je dis pour que les journalistes qui m'écoutent, ils écoutent. Quand vous partez de Bangui pour Bambari, pour une mission, on dit les missions à l'extérieur, c'est 15 000 francs par jour, par personne. Vous donnez 15 000 francs à un journaliste, vous donnez 15 000 francs à un directeur général, vous donnez 15 000 francs à tel autre. Mais le journaliste va prendre son argent et il va attendre que ce soit les autres qui l'appellent pour lui dire « Monsieur, venez prendre une bière ici, monsieur, venez manger ici ». Et quand vous vous comportez comme ça, si vous ne vous dégagez pas, si vous ne mettez pas votre autorité, votre leadership, vous ne garantissez pas l'indépendance de la presse. Et ça, je m'adresse aux journalistes, puisque nous sommes venus parler de ça.
Respect.
Et il faut que les journalistes se respectent pour que les autres les respectent. Et puisque les journalistes se respectent et que les autres les respectent, la communication qu'ils donnent, c'est pourquoi Ndekeluka aujourd'hui fait la fierté de la presse en République centrafricaine, la communication que vous remettez, les bénéficiaires sont satisfaits de cette communication. Par exemple, quelqu'un qui est dehors dit « Non, j'ai acheté les piles, mais le débat Ndekeluka aujourd'hui, ça m'a intéressé parce que j'ai appris beaucoup de choses. » Et c'est ça qu'on doit chercher dans l'indépendance du journaliste. Et c'est la mission que l'État doit assumer. Je dis, on reviendra, si vous voulez qu'on revienne en détail. Pourquoi est-ce que l'État doit être frustré lorsqu'il a une information qui est donnée par un journaliste? Et je reviendrai tout à l'heure dessus lorsque vous me posez la question.
Oui, monsieur Nourafanka.
Oui, je voudrais rebondir sur un aspect là. Quand le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme évoquait ces per diem, ces frais de mission qui sont octroyés aux journalistes, mais il s'est trouvé qu'un membre du gouvernement a préféré que nos frais de mission nous soient remis au niveau d'une station-service. Et ce n'était pas le montant intégral qui était remis. Au lieu de 15 000 francs, on nous a remis 10 000 francs. Ils ont fait le total pour une semaine. Et j'ai dit à mon technicien avec qui je faisais le déplacement de ne pas toucher cet argent. Je m'en occupe auprès des autorités compétentes. Mais je vous le dis que cette situation a fait l'objet d'un rapport que j'ai adressé au président Kolingba et qui a usé de son pouvoir pour faire de ce membre du gouvernement, un préfet. Je vous le dis, oui.
Vous avez remonté l'information.
J'ai remonté l'information.
Mais il y a eu le feedback directement.
Voilà. J'ai écrit mon rapport. Je suis allé à la présidence déposer le rapport pour dénoncer ce genre de comportement. Et c'est ce que je disais, que c'est un état d'esprit. L'indépendance, là, doit commencer par l'esprit. Il faudrait que le journaliste se dise qu'il n'est pas un sous-homme. Lui aussi, il a les mêmes valeurs que les autres. C'est un fonctionnaire de l'État. Lorsqu'il se trouve dans une situation comme un autre fonctionnaire de l'État, mais il doit être traité comme un fonctionnaire de l'État. Pas qu'on le traite comme un moins que rien. Et là, ça vient de lui, s'il se laisse faire. Mais il va continuer à vivre cet état de choses-là aussi longtemps que possible.
Nous allons aborder un autre thème, mais pas changer le sujet. Le 3 mai dernier, le réseau des médias communautaires de Centrafrique a organisé une conférence débat pour échanger sur les conditions de travail des journalistes. Retour sur les temps forts de cette conférence débat avec Boulevis Massambaye.
Professionnels des médias, étudiants et organes de presse ont pris part à cette conférence débat. Plusieurs thématiques ont été au menu, entre autres l'accès aux sources d'information et la liberté d'expression. Didier Martial Pabondier, enseignant-chercheur à l'université de Bangui, pointe du doigt les difficultés pratiques que rencontrent les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions.
L'accès aux sources d'information en République centrafricaine reste encore une vraie problématique pour les journalistes parce que les journalistes ont le devoir d'informer le public. Et nous savons déjà que dans notre métier, les premières sources d'information sont les sources officielles, c'est-à-dire que les autorités politiques, administratives, judiciaires et des forces de l'ordre doivent donner accès aux journalistes pour pouvoir avoir les informations.
À l'heure de la désinformation, il est difficile pour les organisations de veille de lutte contre les fausses informations et les rumeurs d'accéder aux sources pour établir la vérité des faits. Brittany Galungbo pense que le non-accès à la source est une entrave à la liberté de la presse.
Je pense que cette liberté n'est pas respectée en République centrafricaine parce que les journalistes sont de plus en plus pointés du doigt et ils ne sont pas libres de publier des informations et parce que parfois les personnes ressources refusent de se prononcer, raison pour laquelle, selon moi, cette liberté n'est pas respectée.
José Richard Pambi, président du Haut Conseil de la communication HCC, appelle les journalistes à travailler dans le respect des règles de l'art.
Le message du Haut Conseil de la communication est d'appeler les journalistes à rester professionnels, à respecter les règles d'éthique et de déontologie en sciences de l'information et de la communication, à respecter les règles qui encadrent le fonctionnement des médias en République centrafricaine. Le Haut Conseil se félicite déjà de la classification de Reporters sans frontières. En 2021, on était 126e sur 180 pays. La dernière classification a été faite par Reporters sans frontières. La République centrafricaine occupe le 101e rang. Vous voyez quand même, il y a un bond spectaculaire.
La RCA passe de 101e en 2022 pour 98e place en 2023. Une avancée certes, mais les défis restent encore importants, notamment celui de l'économie des médias dans le pays.
Voilà, vous avez compris, hein, le souci majeur des journalistes dans ce pays est le difficile accès aux sources d'information, ce qui constitue une entrave, selon les journalistes, à la liberté de la presse. À titre de rappel, nous avons par exemple tenté plusieurs fois d'avoir autour ou bien sur ce plateau et pour cette émission précise, hein, ce débat en cours, le porte-parole de la présidence de la République et le porte-parole du gouvernement. Mais les journalistes locaux, M. Pambi, se plaignent du fait que certaines autorités accordent beaucoup plus d'interviews à la presse étrangère qu'à la presse nationale. Comment comprendre cela?
Monsieur Armando, je trouve quand même bizarre qu'on se refuse délibérément de se prêter aux questions des journalistes des stations radio, des stations nationales ou des médias nationaux et préfèrent accorder des interviews à la presse internationale. Bon, naturellement, ils le font parce qu'ils veulent toiletter leur image à l'international. C'est peut-être ça. Mais il n'est pas question de refuser de se prêter aux questions des journalistes des médias nationaux et d'accepter en même temps les interviews avec la presse internationale. Je ne sais pas pourquoi ils le font. C'est des questions du quotidien des Centrafricains et donc les médias les plus indiqués à aborder la question, ce sont les médias nationaux et non la presse internationale. Bon, ça c'est pour des raisons qui leur sont propres. Je pense que très souvent, ils veulent toiletter leur image à l'international. Mais tu ne peux pas toiletter ton image à l'international et sur le plan national, ne pas vouloir donner des informations à la population. Je trouve quand même que c'est curieux et c'est pas très
évident. Et c'est une entrave.
Oui, bon.
La liberté
de presse. Oui, une forme d'entrave à la liberté de presse. Mais malheureusement, c'est une entrave. Est-ce que c'est ça? Ça fait quand même bizarre parce que ça n'est pas une entrave. En même temps, ils acceptent de répondre aux mêmes questions à la presse internationale. Mais au niveau des médias nationaux, ils posent problème. Ce n'est pas une question d'entrave. Mais bon, ils ont peut-être leur raison. Une préférence à l'international pour toiletter leur image à l'international. Mais si moi j'ai un conseil à prodiguer à ces personnalités politiques, c'est d'accepter de se prêter aux questions des médias nationaux en priorité, et s'il y a une opportunité de se prêter également aux questions de la presse internationale. Il n'est pas question de se prêter aux questions de la presse internationale au détriment des médias nationaux. Pour moi, ça pose problème.
Monsieur Christian Noël Panikkar, sur cette question, tout à l'heure.
Je voudrais avant tout relever quelque chose. Cette préférence-là pour la presse internationale, parfois, cette préférence peut aussi porter préjudice. On préfère répondre aux questions de la presse internationale sur un certain nombre de sujets ou bien se disant que c'est la meilleure façon de vendre l'image du pays. Mais parfois, on se fait des illusions. C'est le contraire qui se produit. Donc, il va falloir donner aussi la latitude à la presse nationale d'avoir accès à certaines informations. C'est cette presse-là qui va vendre mieux l'image du pays. Parce que c'est une presse de proximité et elle commencera par le faire au niveau même du pays avant que ça puisse toucher l'international. les confrères de la presse internationale qui viennent, ils viennent traiter des sujets dans des angles bien définis. Et parfois, ça peut desservir le pays. On se dit que, bon, mais c'est par exemple telle ou telle chaîne internationale qui arrive, on va se livrer à cette chaîne-là, mais au bout du compte, c'est le contraire qui se produit. Donc, il ne faudrait pas minimiser le travail qui est fait par la presse nationale. Il faut donner toute son importance à ce travail qui est fait par la presse nationale. Ça peut aussi aider positivement le pays. C'est avec un pincement de cœur que je remarque que parfois, il y a certaines autorités qui, la plupart du temps, ne font même pas fi de la presse nationale. Il y a des événements, il va falloir que les journalistes courent vers elles pour avoir l'information et données. Et parfois, ces mêmes autorités prennent déjà la peine de donner l'information à l'international ou bien décrochent leur téléphone et puis appellent telle ou telle station pour donner la primauté à la presse internationale. Alors que la presse nationale a aussi son rôle. Elle existe et elle fait aussi ce travail. Il faut la valoriser.
Monsieur Bindoumi.
Le problème tel que vous le posez est très profond. Vous savez qu'en République centrafricaine, lorsque un journaliste national donne une information, même les responsables de l'État ne prennent pas au sérieux cette information. Même lorsque la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, avec ses moyens de communiquer, donne une information, les gens, ils ne font pas attention à cette information. Mais lorsque la même information est donnée par une presse étrangère, c'est ce moment-là que nous, on sursaute. Je vous donne un exemple bête. Nous avons eu des événements qui se sont passés ici. Le discours de la haine, la liberté, l'indépendance de communiquer, de réagir dans un état de droit, etc. Nous avons condamné, nous avons dénoncé certaines restrictions qui ont existé. Personne n'a jamais pris ça au sérieux. Mais lorsque une presse étrangère, un journaliste étranger, un reporter étranger est arrivé en République centrafricaine, s'est présenté à la présidence de la République, à l'Assemblée nationale, au gouvernement, est rentré dans le quartier, a pris les mêmes informations qui étaient diffusées par nos journalistes, qui étaient connues par nos hommes sur le terrain. Il a sorti et nous, on a commencé à faire du roulet-boulet en disant que Human Watch est venu, vous voyez, il a eu ça où, on n'a pas vu, on n'a pas entendu. Alors que les mêmes éléments qu'il a donnés, c'était des éléments qui étaient déjà entre nos mains ici. Vous comprenez? Et donc, si on avait pris en compte les informations données par la presse nationale, hein, on aurait évité ce que l'autre a dit, parce qu'on se serait étonné, on a dit, mais il a répété ce que nous, on a déjà résolu. Et donc, ça n'aurait jamais été un problème. Ça, c'est quelque chose de fondamental sur lequel nous devons appeler l'attention des gouvernants. Vous savez, aujourd'hui, la Ligue centrafricaine des droits de l'homme est suffisamment étonnée. Lorsqu'il y a un événement à la frontière entre la République centrafricaine et le Tchad, entre la République centrafricaine et le Soudan, mais on tend le micro à l'international, au ministre des Affaires étrangères, qui donne une version des faits. Mais alors que nos correspondants, il y a des correspondants de Radio
Keluka, Andele, Abirao,
qui auraient pu donner des informations, laisser ces informations-là à la disposition de l'État et demander l'international à venir récupérer les éléments, les biens qu'on a mis dans un panier. C'est-à-dire que nous, on a déjà pris nous-mêmes. Si la presse internationale veut avoir, nous disons, voilà, nous avons un panier, nous avons tout mis là-dedans, et vous prenez. Mais si nous laissons notre panier fermé, mais les autres viennent, ils récupèrent les mêmes informations, et puis on dit qu'on nous a dénigrés, on dit qu'on a parlé du bien ou du mal de nous. Donc ce que nous devons appeler autour de cette mission, c'est quoi? Nous devons appeler autour de cette mission, c'est que si nous connaissons notre presse comme un pouvoir, les informations qui viennent de nos journalistes devraient être d'abord prises en considération. Et lorsque nous avons une possibilité de communiquer, et c'est pourquoi moi j'attends des ministres ici autour de cette table, pour que je parle avec eux, hein, pour que moi je dise en tant que représentant de la société civile, qu'est-ce que je pense du fonctionnement du gouvernement par rapport aux événements qui constituent des violations systématiques des droits de l'homme. Je veux qu'ils viennent ici pour qu'on en parle, peut-être qu'en parlant avec eux, et la situation va changer sur le pays. Donc, on a constaté, au niveau des pouvoirs publics, une négligence des médias publics, notamment.
Est-ce qu'on peut appeler ça une négligence ou bien les gens cherchent à éviter, par exemple, la presse nationale qui maîtrise bien, par exemple, les sujets locaux, la situation actuelle du pays, par exemple.
Vous savez que on a l'impression que nos ministres vivent dans la hantise de partir du gouvernement. C'est la peur de partir du gouvernement. C'est-à-dire chaque ministre se dit, si moi je vais là-bas, si je dis, si ça ne plaît pas, est-ce que au prochain remaniement, je serai encore reconduit dans le gouvernement. Ils vivent dans la hantise. Donc, ils ont peur de se dévoiler. Alors qu'un ministre, c'est un petit président de la République dans son département qui doit mettre tout en œuvre pour modifier la situation sur le plan national en accord avec le président.
Pas seulement les ministres, il y a certaines personnes aussi.
Oui, certaines personnes. Alors donc, je pense qu'on ne devrait pas être toujours en train de fuir le débat national pour se prêter au débat devant les médias internationaux. Notre réunion d'aujourd'hui, c'est de dire que privilégions ce qui est centrafricain. Privilégions. Nous avons les moyens aujourd'hui de communiquer. Nous avons des journalistes compétents qui vont sur le terrain et puis qui prennent des informations, qui mettent à la disposition de l'État centrafricain. Je me rends compte aussi que parfois, certaines activités, le gouvernement ne fait pas attention. Je donne un exemple. Quand il y a eu des tueries de Kounsili et Limouna, la Ligue centrafricaine des droits de l'homme est arrivée sur le terrain avant que l'État soit capable de déployer un seul journaliste pour aller voir ce qui s'est passé là-bas. Il faudrait que nous donnons la force à nos journalistes d'aller immédiatement sur le terrain, prendre des informations à l'État frais, et puis les remettre à la disposition de la population pour que le gouvernement puisse voir quelles réactions il faut avoir pour changer la situation sur le plan national.
Monsieur Noël Panika.
Je crois que l'un des aspects a été déjà pris en compte par le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. Je voulais parler de cette peur-là. Il y a une peur qui existe dans nos autorités de pouvoir s'ouvrir à la presse. Donc, elle ne s'ouvre pas facilement à la presse. Lorsqu'il y a une situation, c'est assez difficile de voir promptement une autorité parler de cela et aussi facilement que ça. Il faut s'entourer de toutes les garanties pour pouvoir maintenant parler. Et parfois, ça fait en sorte que l'information, qui est une denrée périssable, perd de sa quintessence. Parce que l'événement s'est produit.
On attend deux, trois jours
pour réagir. Et à ce moment-là, ça n'a plus sa valeur.
Non, nous allons aborder une seule question pour boucler ce débat d'aujourd'hui, une question pour tout le monde. Quel avenir pour le journalisme et la liberté d'expression en République centrafricaine, M. Poimbi?
Moi, je dirais quand même qu'il y a la liberté de presse en Centrafrique. Il y a des journalistes indépendants en République centrafricaine. Il suffit de lire les parutions du jour pour se rendre à l'évidence qu'il y a des journalistes indépendants, qu'il y a des organes de presse indépendants. Il suffit de lire les journaux de la place pour se rendre compte qu'il y a la liberté de presse. Il y a des propos que les gens tiennent, sans être inquiété. Donc, pour moi, il y a des journalistes indépendants en République centrafricaine, il y a la liberté de presse en République centrafricaine. La liberté de presse existe. Mais après, quand il s'agit de certains organes de presse, comme on a évoqué tout à l'heure, le cas des médias de service public qui font la rétention d'informations, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas la liberté de presse. La liberté de presse existe en République centrafricaine. La preuve, on est aujourd'hui en Ndékéluka. On dit tout. Quand on écoute Ndékéluka à longueur de journée, on dit tout. Quand on écoute la radio Guira à longueur de journée, on dit tout sans être inquiété. La presse, les organes de presse tels que Le Citoyen, L'Hirondelle, Le Confident, Centrafrique Matin. Il suffit de voir le contenu de ces journaux pour se rendre à l'évidence qu'il y a la liberté de presse en République centrafricaine. Mais ce que, moi, en tant que régulateur, je peux reprocher aux journalistes, la seule récrimination, c'est de comprendre que nous, journalistes, on ne doit pas confondre la liberté de presse avec la liberté d'injurier, la liberté de presse avec la liberté de vilipender, la liberté de presse avec la liberté de s'immiscer dans la vie privée de nos concitoyens et raconter n'importe quoi. La liberté de presse ne vous autorise pas de véhiculer des messages de haine, les appels à la violence. Mais malheureusement, quand on constate ça dans certains organes de presse, on constate à longueur de journée qu'il y a des messages de haine qui sont publiés ou diffusés. Il y a des appels à la violence. Et c'est ce que nous, autorités de régulation, on condamne. La liberté de presse, c'est le respect des règles d'éthique et de déontologie en sciences de l'information et de la communication. La liberté de presse, c'est le respect des textes qui encadrent le fonctionnement des médias en République centrafricaine. Peu importe ce que les gens disent, mais je sais que la liberté de presse en République centrafricaine, il suffit de voir la classification de Reporters sans frontières, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, pour se rendre à l'évidence que la liberté de presse en République centrafricaine, 2022, 101e, 2023, 98e, sur 180, c'est pas quand même rien. Et la liberté de presse en République centrafricaine, il y a des médias libres et indépendants en République centrafricaine. Même si quelque part, beaucoup plus les médias de service public qui font la rétention de l'information, ça c'est eux qui font la rétention de l'information. Et donc j'en appelle à la responsabilité des responsables des médias de service public de rester professionnels, de ne pas faire la rétention de l'information pour assouvir les intérêts d'une tierce personne. Ils sont des journalistes, ils sont formés pour ça. C'est leur travail, ils doivent s'assumer.
Monsieur Bindoumi, quel avenir pour la liberté d'expression dans ce pays?
Effectivement, notre objectif, c'est de faire en sorte que la liberté de la presse que nous avons constatée, qui existe déjà, mais peut-être que avec l'idée de progresser dans le bon sens, existe. Donc il faut mesurer la liberté de la presse que nous souhaitons par rapport aux hommes. Aux hommes qui sont chargés de chercher, de trouver l'information et de les transmettre. Et c'est aussi par rapport aux bénéficiaires. Vous savez qu'aujourd'hui, les journalistes nous donnent des informations, mais quelque part, on a un intérêt de l'État à ce que les bénéficiaires que nous sommes, le peuple que nous sommes, nous ne puissions pas recevoir ces informations. Et donc, on considère ces informations le plus souvent comme de la diffamation, comme des discours de haine. Mais parfois, ce sont des informations vraies. Lorsqu'on nous dit, par exemple, que telle personne, à telle date, est supposée avoir détourné une somme de tant de millions dans les services publics qu'il occupe. Ça, c'est un journaliste qui le donne. Moi, j'ai le droit de recevoir ça, mais on n'a pas le droit de dire que cette information-là, c'est de la diffamation. On n'a pas le droit de dire que c'est un discours de haine. On doit dire que telle personne qui a été accusée de détournement devrait s'expliquer pour dire non. On a dit que j'ai détourné. C'est pas vrai. Je n'ai pas détourné. L'argent dont on pense que c'est allé entre mes mains, c'est de l'argent qui a été rendu disponible pour le service public. Et donc vous comprenez que dans la liberté de la presse que nous voulons avoir demain, c'est d'avoir des journalistes aptes à faire leur travail, d'avoir le pouvoir public qui ne nous coupe pas de nos journalistes pour dire qu'il y a des choses que nous ne devons pas écouter, hein, puisque nous sommes là pour ça. Nous devons écouter un certain nombre de choses et nous, de faire la différence. Et dans la liberté de la presse que nous, sur laquelle je voudrais chuter, c'est de dire que les journalistes ne doivent pas faire ce que certains sont en train de faire. Je vous donne un exemple. J'ai lu il y a deux jours un organe de presse en ligne, mais qui a donné des notes aux membres du gouvernement. Le premier ministre a eu 9 sur 20, et il y a des ministres qui ont eu jusqu'à 3 sur 20. Et puis, on a mis ça en ligne pour dire que voilà l'état du gouvernement, voilà ceux qui font quelque chose, voilà ceux qui ne font rien.
C'est à base de quoi ils ont fait cette évaluation?
Voilà, la question, c'est à la base de quoi vous pouvez jeter en pâture un premier ministre en disant qu'il a 9 sur 20, et puis que vous pouvez prendre des ministres du gouvernement pour dire qu'ils ont 3 sur 20. Vous avez fait quel sondage? Sur quel sujet pour arriver à ce résultat? Et je dis que si cette presse-là, et qui est la presse Gombo, se poursuit, la liberté de la presse de demain n'a pas d'avenir. Maintenant, si on met tout ça de côté, on a espoir qu'il y a quand même beaucoup de journalistes qui, aujourd'hui, sont en train de faire un bon travail en République centrafricaine.
Oui, monsieur Christian Noël Panica, sur l'avenir de la presse,
l'avenir, la liberté d'expression. L'avenir de la liberté d'expression, c'est un avenir qui est certain. Et il faut se dire que la liberté de la presse existe réellement en Centrafrique. Si nous partons du constat que dans un passé lointain, il fallait, par exemple, faire tout ce qu'il y a comme production, réaliser le journal et aller d'abord le présenter au rédacteur en chef qui était Bokassa à l'époque pour que lui-même il valide afin qu'on vienne diffuser le journal. Si on part de ce constat, à un moment où il fallait que le ministre de la Communication vienne d'abord parcourir tout le journal avant que ça soit diffusé.
Sous sa validation.
Voilà. Et que maintenant, à la Radio Centrafrique, tout se passe correctement. On n'a plus ce genre de faits qui se produisent. C'est qu'on a certainement évolué. Maintenant, quand on voit des stations de radio comme des Kelouka continuer à évoluer sur le sol centrafricain, on se dit que cette liberté, elle est là. Et maintenant, le problème qui se pose, c'est que comment les journalistes doivent se servir de cette liberté? Est-ce qu'ils vont continuer à exercer dans les règles ou bien à en profiter pour faire des excès ou des abus? Parce que c'est ça là qui est le plus dangereux. Lorsqu'on parcourt par exemple certains journaux, on sent qu'il y a des abus. On s'en prend même à des personnalités qui réellement ne devraient pas faire l'objet de ces genres d'articles qu'on lit ça et là. Des personnalités qui sont protégées par exemple par des conventions internationales que la République centrafricaine a ratifiées, mais qu'à longueur de journée, il y a des journalistes qui tirent sur ces personnalités sans qu'il y ait réaction. Donc les excès, les abus, c'est ce
qui... Et ces excès et les abus, ça c'est le travail du Haut Conseil de la communication, comme M. Pambi l'a évoqué tout à l'heure.
Oui, il va falloir qu'on passe à l'acte, M. le Président. C'est peut-être mon souci, parce qu'on constate qu'il y a certains faits qui sont là, mais les auteurs ne sont aucunement inquiétés. Il y a des exemples que je n'aimerais pas citer ici, mais qui sont là et qui sont vraiment palpables. Et qui sont criards. C'est dangereux pour la liberté de la presse.
Monsieur Pambi, vous voulez répondre tout à l'heure sur cette question.
Merci.
Des mécanismes de coercition.
Vous savez, tout à l'heure, vous avez évoqué la question de la liberté de presse. Vous êtes d'accord avec moi, quand vous-même, quand vous écoutez ce que vous dites, selon vous, est-ce qu'il y a la liberté de presse? Il y a la liberté de presse en Centrafrique. Aucun journaliste n'est embastillé. Il n'y a aucun prisonnier d'opinion. La liberté de presse en Centrafrique. Pour revenir à ce que mon doyen... Le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme a dit tout à l'heure la question de la notation des membres du gouvernement. Ce n'est pas normal, ce n'est pas du journalisme. Il n'appartient pas à un organe de presse de noter un membre du gouvernement.
Et ce n'est même pas son rôle.
Quels sont les éléments d'appréciation dont il dispose pour noter un membre du gouvernement? Ce n'est pas du journalisme. Ça, ils veulent faire le sensationnel. Ça n'a rien à voir. Le travail du journaliste, est-ce que c'est de noter les membres du gouvernement? Ils ne sont même pas capables de noter les gens qui travaillent chez eux. Mais se permettre de noter les membres du gouvernement. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas le travail de journaliste.
Mais qu'est-ce que vous, en tant que haut responsable de la communication, qu'est-ce que vous allez prendre comme mesure par rapport à cette situation?
J'en viens, monsieur le président. Vous savez, très souvent, c'est les organes de presse qui font du n'importe quoi. Dans la plupart des cas, c'est les organes de presse qui n'ont pas une autorisation de publication, du moins délivrée par le Haut Conseil de la communication. Mais à partir du moment où vous n'avez pas une autorisation de publication dûment délivrée par le Haut Conseil de la communication, de mon avis, tu n'es pas journaliste. C'est la partie au procureur
de faire son travail.
De s'auto-saisir des cas comme ça.
Je vous remercie beaucoup.
Et carrément de faire son travail.
Oui, vous avez
Il
raison.
N'appartient pas au Conseil de la communication de le faire. Très souvent également, les gens parlent du Haut Conseil de la communication. Écoutez, nous sommes allés sur les réseaux sociaux, il y a eu telle chose, il y a eu tel propos, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu des injures, il y a eu des appels à la haine. Que fait le Haut Conseil de la communication? Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, il n'y a pas que les journalistes qui ont accès aux réseaux sociaux. Si ce sont les organes de presse ou les journalistes qui font ces genre de publication, à partir de ce moment, la responsabilité du Haut Conseil de la communication est engagée. Mais dans la plupart des cas, c'est ce qu'on appelle les journalistes citoyens qui jouissent de leur liberté d'expression pour s'exprimer, qui en abusent un tout petit peu. Mais ils en abusent carrément. Et cela, je dis encore, c'est l'affaire du parquet. Ce n'est pas le Haut Conseil de la communication. Le Haut Conseil de la communication a pour mission de réguler les contenus des productions médiatiques, point barre. À condition que ce soit les journalistes.
Et des médias reconnus par le Haut Conseil.
Voilà, des organes de presse ou les stations de radiodiffusion, chaînes de télévision, qui ont une autorisation de publication ou de diffusion. Mais pas les petits bandits qui font un peu de n'importe quoi. Tout le monde veut se prévaloir la qualité de journaliste, alors ils n'ont pas qualité de journaliste. Non, le Haut Conseil de la communication, quand il s'agit des organes de presse qui commettent ces genres de bavures, la mission du Haut Conseil de la communication n'est pas seulement de prendre des sanctions. Nous faisons un peu la pédagogie. Pour une première fois, nous faisons la pédagogie, une deuxième fois, nous faisons la pédagogie. Mais dans les cas les plus extrêmes, nous prenons des sanctions. Mais malheureusement, le Haut Conseil de la communication, qui est une autorité administrative indépendante, n'a pas le pouvoir de coercition. Quand nous prenons des sanctions, il appartient à la police, à la gendarmerie, de mettre en application les décisions du Haut Conseil de la communication. Or, il se trouve que très souvent, quand on prend des décisions, la mise en application pose problème. Mais une fois, nous avons saisi la direction générale de la police et la gendarmerie pour faire le suivi de la mise en application des décisions du Haut Conseil de la communication. S'ils ne le font pas, que peut faire le Haut Conseil de la communication? Et ces mêmes personnes qui sont sanctionnées, ils continuent de paraître pour nous narguer. Donc j'en appelle un peu à la responsabilité des autres entités qui doivent jouer leur partition une fois que le Haut Conseil de la communication a pris une sanction de prendre leurs responsabilités. Voilà. Et il n'appartient pas à un journaliste de noter les membres du gouvernement. C'est pas leur mission.
Désolé, le temps nous fait défaut et c'est la fin de ce débat politique consacré à la Journée mondiale de la liberté de la presse et surtout dans le contexte centrafricain. Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres tout au long de cette émission. Merci à nos auditeurs et internautes car nous avons aussi pris en compte vos questions, vos suggestions et vos remarques. Merci à nos invités. Merci à vous, monsieur Christian Noël Panika. Merci à vous, monsieur Joseph Bindoumi, José Richard Pambi, président du Conseil de la communication. Merci aussi à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Vous pouvez aussi réécouter hein, ce débat en podcast sur www.radiondekiluka.org dans la rubrique débat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bon week-end et surtout prenez bien soin de vous car on ne vit qu'une seule fois. À la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Au revoir.